C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on va revenir sur l'échec, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a qualifié, de cette rencontre entre les ministres des provinces de la Santé et Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral, pour augmenter les transferts en santé vers les provinces, vers les territoires. Donc, pour l'instant, un échec. Le ministre est très déçu. Et on sait que les ministres, Christian Dubé en tête, ont dit, il n'est pas question de prendre de l'argent puis qu'il y a des conditions de rattacher à ça puis des critères à atteindre. C'est le rôle du fédéral de fournir l'argent puis c'est à nous de l'administrer. Alors, est-ce que c'est le fédéral qui a raison? Est-ce que ce sont les provinces? Luc?
Les provinces big time qui ont raison. Le fédéral, en plus de ça, est hypocrite là-dedans. C'est faux et usage de faux. Là. Par exemple, ils disent, commencez par nous fournir un tableau indicateur. Ça, les tableaux indicateurs, là, maudit que il y a des firmes de consultants, les McKinsey de ce monde, là, qui adorent fournir des tableaux indicateurs. Ça marche dans, quand tu as des produits tellement uniformes. Tu sais, quand tu compares des pommes avec des pommes, des patates avec des patates. Mais quand tu compares quelqu'un qui subit une dépression nerveuse dans un environnement, mettons, dans le nord du Québec, par rapport à quelqu'un qui subit une dépression nerveuse à Toronto, ça marche plus. Parce que les ressources que tu vas affecter à ça, la performance du système de santé par rapport à cet appel-là, tout ça dépend du contexte, dépend de tellement de variables que tu peux pas mesurer, tu peux pas faire un tableau indicateur, bord en bord, Anne-Marie ou Scott Anne-Marie, qui va te donner une vraie information sur les systèmes de santé. Puis pourquoi tu voudrais avoir cette information-là? Et ça, ils le disent pas. Oh, juste avoir un tableau indicateur. Ben non, tu peux pas juste un tableau indicateur. Tu veux décider où les provinces vont finalement mettre leur argent. Vous en avez pas mis assez sur les Premières Nations. Vous en avez pas mis assez sur les personnes marginalisées. Parce que c'est ça la philosophie du gouvernement libéral. Vous en avez pas mis assez trop là, pas assez là. Vous avez pas fait assez de formation. Ils vont servir du tableau indicateur comme d'un tableau de contrôle. Les provinces ont raison de dire non.
Mais c'est un débat, faut le dire, qu'il n'y a rien d'ésotérique là, pour le bénéfice de nos auditeurs. Les provinces disent, depuis 2 ans d'ailleurs, c'est ce qui est formidable, c'est que le front commun perdure. Les provinces sont toujours liées dans ce combat mené contre le fédéral d'obtenir plus d'argent. Ce que les provinces disent, à l'unanimité, c'est que la pandémie a fait très mal à notre réseau de la santé. On a tous de grands défis à relever et le fédéral, lui aussi, une responsabilité en la matière. Donc, le fédéral doit augmenter ses transferts dans le domaine de la santé. Pour le Québec, là, qu'on soit uniquement en transfert en santé pour 2022-2023, c'est 9,7 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et ce que les premiers ministres du pays demandent à Ottawa, c'est de faire passer ces transferts. En fait, on veut les bonifier de 28 milliards. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est un bon substantiel qui serait fait dans les sommes que nous recevrions du fédéral. L'argument d'Ottawa, Luc, c'est de dire, écoutez, nous, on veut faire du Canada, on veut que vous partagiez les données, on veut créer un système pan-canadien de partage de données pour se comparer entre nous et qu'on puisse ensemble travailler à élaborer un système de santé qui est le meilleur, qui est un des meilleurs sur la planète. Sur le partage des données, Christian Dubé a pas montré de la fermeture, mais ce qu'il a dit, c'est que l'idée est intéressante, mais en même temps, le Québec a toujours plaidé pour un transfert sans condition du côté d'Ottawa. Là, on est engagé dans un dialogue de sourds. Je ne vois pas comment on va arriver à résoudre le problème. La seule façon peut-être d'y arriver, c'est qu'Ottawa décide de percer une faille dans cette muraille qu'ont érigée les premiers ministres entre eux et de convenir d'entente avec chacune des provinces. Alors, je sais
la
pas
nuit
si
des pourrais... longs scalpels.
La nuit des longs scalpels, en effet. Mais en même temps, les premiers ministres sont déterminés. J'entendais le premier ministre de la Colombie-Britannique de la Santé, pas le premier ministre, mais les premiers ministres de la Santé aussi sont déterminés, dire nous y arriverons, parce que notre cause est juste. C'est vrai que c'est une cause qui est juste. Mais en même temps, moi, je comprends le fédéral, Luc. Quand tu sais que, par exemple, les sommes qu'envoie Ottawa pour la francisation sont dépensées, quoi, à 25 % pour la francisation, tu te demandes où sont passés tous ces millions de dollars pour la francisation.
Je pense que ça, c'est un bon exemple, Nathalie. C'est que le fédéral joue politique. Là. C'est-à-dire qu'il est allé dans les médias puis il a dit, regardez, on a trouvé que le provincial n'avait pas dépensé sa francisation. Mais ils ont regardé juste les sommes qui étaient dépensées par le ministère de l'Immigration. Ils n'ont pas regardé les autres sommes dépensées par exemple, par le ministère de la Santé ou tout autre ministère qui ait un impact sur l'arrivée des nouveaux arrivants. Et lorsque on fait le calcul de toutes les sommes dépensées par tous les ministères, mais ça arrive à la somme qu'a donnée le fédéral. Mais pourquoi le fédéral dans les médias?
Excuse-moi, c'est intéressant de t'entendre, mais moi, j'ai pas vu Québec en faire la démonstration là, que les 605 millions envoyés par Ottawa sont toutes dépensées pour la francisation.
Non, c'est ça. Regarde, moi, je me fie sur deux témoignages que j'ai reçus avec des chiffres. J'avais pas le tableau, puis le provincial n'a pas produit ces tableaux-là, t'as raison. Mais bon, c'est un argumentaire qui a été fait par des attachés de ministres.
Que l'argent avait été dépensé, mais dans différents ministères. Mais
ce serait intéressant qu'ils le partagent avec le gouvernement public, en passant.
Oui, ça serait pas pire. Mais dans le fond, là, c'est parce que hier, on a eu les chiffres sur le cancer. 1,5 million de Canadiens ont eu le cancer dans les dernières années. Population vieillissante, des traitements qui coûtent plus cher. Là, on veut bien que Québec, Ottawa se chicanent, là, mais c'est parce que qui ramasse la facture de ces traitements-là puis des hospitalisations? C'est le Québec.
C'est les
là.
Provinces.
Ce sont les provinces.
C'est la base de tout. C'est que les soins de santé coûtent de plus en plus cher, sont rendus à presque 50 % du produit national brut pour chacune des provinces. Ça augmente. Le fédéral finançait 35 % et s'est retiré, est à 22 % c'est ça la base. La base, c'est ça. Là. Ça coûte cher de nous l'argent. Bon, ceci étant dit, ça c'est vrai, Nathalie, tu as un point quand tu dis... moi, je t'ai revenu en disant, ouais, mais c'est pas sûr pour la francisation. Mais il y a des domaines dans lesquels c'est sûr que la province dépense pas l'argent du fédéral comme il était supposé le dépenser. Par exemple, l'Alberta... pendant la COVID, a fermé des lits, a fermé des services, etc. Tu sais, le fédéral peut se dire, mais moi, je vais t'envoyer plus d'argent, tu vas faire quoi? Tu vas encore faire des coupures d'impôts?
Mais moi, je me souviens de M. Harper qui avait envoyé, c'était quoi, 2 milliards au Québec, je pense?
Que Québec a baissé les impôts.
Oui.
Ben, c'est ça.
Et il peut dire que ça, là...
non, ça, j'avoue, ça crée des dons de tension. Mais on est face à un gouvernement... Oui, excuse-moi, Paul.
Vas-y.
Ben, moi, je dirais juste une condition d'Ottawa. Tu le dépenses en santé. Ça serait ça, la condition.
Ouais, mais Ottawa veut essayer de rentabiliser, de maximiser les sommes qui sont transférées aux provinces. Je dis pas qu'Ottawa a raison, mais ce qui est factuel, c'est qu'on est face à un gouvernement qui est très centralisateur et qui s'immisce dans les compétences des provinces. Un exemple très concret, les soins dentaires. Ottawa a dit, ben, savez-vous quoi? Il faut aider les Canadiens qui n'ont pas le moyen d'aller chez le dentiste. Fine, parfait. Mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des chèques aux familles en comptant sur la bonne foi des familles pour dépenser le fameux chèque pour les soins dentaires. Le gouvernement n'a aucune garantie que tous ces milliards seront dépensés. Ce pourquoi le programme a été créé. L'autre chose, il aurait été plus sage de la part d'Ottawa d'envoyer ces sommes-là dans les provinces pour, par exemple, au Québec, permettre d'améliorer l'accessibilité aux soins dentaires, en particulier pour les enfants, les jeunes enfants. Si vous avez, je pense, puis peut-être les auditeurs pourront nous aider, là, mais si votre enfant a plus de 10 ou 12 ans, il n'est plus admissible à la gratuité pour ce qui est des soins dentaires. Est-ce que cet argent-là aurait pu nous servir à améliorer, à étendre l'accessibilité pour les enfants, par exemple, jusqu'à, je sais pas, 15 ans, 16 ans, 18 ans, vous comprenez? Et le fédéral n'est pas bon dans les opérations. Il s'enfarge dans les fleurs du tapis. Il ne sait pas comment faire. Les opérations, ça relève des provinces. Maintenant, cette conférence est terminée en queue de poisson. Puis je comprends le ministre Jean-Yves Duclos qui était, qui s'est montré déçu. Puis il était tellement frustré parce que de savoir que les premiers ministres avaient émis un communiqué avant la fin de la conférence, qu'il a décidé de ne pas participer à la fin à la conférence de presse avec ses collègues ministres de la Santé. Le fédéral n'a pas participé à l'émission du communiqué final. Puis pour avoir participé à plusieurs de ces conférences, quand il ministre de la Santé, puis il y a une conférence comme celle-là sur deux jours, ta job à toi, c'est de s'assurer que la conférence se termine de belle façon. Là, on fait du surplace. Honnêtement, je ne sais pas comment on va y arriver.
Merci. Au retour, on va parler des taxes, là, parce que les gens ont reçu le nouveau rôle d'évaluation. Les gens ont fait le saut pas mal. Et là, la question, l'augmentation des taxes à venir, c'est-à-dire 3, 4, 5 ou 6 %. On va le savoir dans quelques semaines. Mme Plante a dit que le système est complètement désuet, que ça n'a pas de bon sens d'être basé uniquement sur des taxes foncières ou prêts. Alors, la question est simple. Pour répondre aux besoins de la ville, on prend l'argent où?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le compte de taxes municipales va entrer bientôt avec une augmentation. C'est pas encore exactement l'ampleur, mais hier, on parlait de 3 à 6 %. Madame Plante a profité de l'occasion pour dire que le système était tout à fait désuet. et qu'il fallait trouver d'autres sources de revenus. Alors, la question ce matin, on prend l'argent où, Luc?
Mais d'abord, mettons un peu la table. Si les gens, ils se disent, OK, 6 milliards de dollars, crime budget, t'es capable de couper un peu, puis les employés sont grassement payés, puis tout. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre à la ville. Pourquoi? Parce que ce sont tous des employés conventionnés. C'est tous des conventions collectives. C'est en béton, c'est dans un coffre-fort, c'est barré à clé, il y a du tape autour. Là. Tu peux pas vraiment couper du jour au lendemain. Tu coupes un employé, il faut que tu le gardes. C'est pas rien, là. C'est un employé que tu dis, OK, je vais le couper pour faire de l'argent. Non, faut que tu le gardes, faut que tu le payes. Fait que il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. L'autre affaire où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est sur les contrats. Dans les contrats, contrats de déneigement, contrats de collecte d'ordures ou de compostage, etc., c'est signé 3 ans à l'avance avec une augmentation de 2% par année. Tu peux pas toucher à ça. Finalement, il y a les travaux. Les projets, les travaux. Comme les travaux, ceux qui ont des rénovations dans la maison, ils savent, ça coûte de plus en plus cher. Les travaux coûtent cher, les matériaux coûtent cher. Fait que toute coupure entraîne un gros sacrifice. Il y a un peu de marge de manœuvre. Par exemple, il y a une nouvelle équipe qui a été mise sur pied, le développement durable. Ils ont une quarantaine. Moi, j'en garderai deux. Claire, tout le reste à la porte.
On recycle.
Ouais, mais les deux pour démonter les bureaux. Mais le reste, là, regarde, t'as pas besoin d'une équipe de développement durable pour savoir comment faire du développement durable. C'est écrit partout dans les livres, tu sais, les matériaux, les bâtiments, le transport, etc. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi toute cette fatra de consultation publique, là. Il y en a, le 3/4 des consultations publiques sont des shows de boucan. Mais ça, c'est du petit argent, là. C'est du screening.
C'est de la démocratie, Luc.
Mais non, c'est pas de la démocratie, c'est du marketing. Mais c'est du screening, ça. C'est de l'argent du coin de la table. Comme par exemple, commissaire à ci, commissaire à ça, commissaire à la réconciliation. Un bon élu devrait être capable de faire de la réconciliation sans avoir besoin d'un commissaire à ses côtés. Donc, tout ça. Mais ceci étant dit, les vraies coupures, c'est de couper les services. Est-ce que la population est prête à se faire couper des services? Puis c'est ça la vraie question.
La réponse, c'est non. La mairesse de Montréal pourrait chanter la célèbre chanson de Diane Dufresne, « Donnez-moi de l'oxygène », parce que c'est ce qu'elle demande, la mairesse de Montréal, de l'oxygène. En fait, tout ce débat là, qu'on a ce matin se tient dans le cadre d'un forum sur la fiscalité montréalaise, une centaine de participants qui tentent de trouver des façons nouvelles de soulager la ville de la pression qu'exerce la taxe foncière sur le budget. Montréal là, a à peu près 6,4 milliards de revenus, et là-dessus, 63 % de tout son budget est composé de la taxe foncière. Pour vous donner une comparaison, à Québec, là, c'est presque 80 %, c'est 79 %. Alors, la taxe foncière pèse très, très lourd dans le budget des villes, ce qui fait en sorte que ça limite certaines initiatives. Moi, je pense qu'il y a 3 options possibles pour la Ville de Montréal. On réclame davantage de Québec et du gouvernement fédéral. On négocie certaines ententes pour des sujets bien précis, les armes à feu, par exemple, l'intégration en immigration. Deuxième option, pour la ville, on taxe en fonction du principe de l'utilisateur-payeur. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça résonne certainement auprès de toi, mon cher Luc, mais ça pourrait être une option. Puis l'autre option, c'est on crée une nouvelle fiscalité. On ouvre un nouveau champ sur le plan fiscal, entre autres avec l'éco-fiscalité. Il y a des intervenants présents à la ville, entre autres le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui dit, ben le jour où la taxe sur l'essence va disparaître parce qu'on va rouler davantage en véhicule électrique, ben il faudrait peut-être imposer une taxe au kilomètre, ce qu'on appelle une taxe kilométrique. Il y a également une tarification de pour les grands utilisateurs non résidentiels, la gestion des déchets. Moi, je dis, il y a peut-être l'enjeu de la pollution aussi. La qualité de l'air, c'est un élément important dans une ville. Peut-être que là, il y a un champ que pourrait explorer la ville pour taxer davantage. Mais tout ça pour dire, tout ça, puis tu l'as dit, Luc, dans le fond, où est-ce qu'on peut couper? Mais le défi de la mairesse et de tous les maires au Québec, c'est de dire comment on peut éviter comment assurer davantage de responsabilités sans toujours faire porter la pression sur le payeur de taxes et le contribuable? Comment s'assurer que toutes ces nouvelles responsabilités qui arrivent dans notre cour ne se traduisent pas par une augmentation fulgurante du compte de taxes?
Bon, moi, j'aime beaucoup ta taxe à l'écofiscalité, bien entendu, puis on peut l'expliquer rapidement pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. T'habites un bungalow, t'as 100 pieds de trottoir devant chez toi. La ville te facture pas pour les 100 pieds de trottoir, elle te facture pour la valeur de ta maison. OK? Si tu as un immeuble 40 étages, il y a 100 pieds de trottoir devant l'immeuble, la ville te facture pas pour les 100 pieds de trottoir, elle te facture pour la valeur de ton immeuble. Ton immeuble, il vaut 1000 fois plus que l'autre bungalow devant lesquels et les deux ont 100 pieds de trottoir à déneiger devant. L'écofiscalité consiste à dire si 10 maisons par kilomètre à un endroit puis il y en a 1000 par kilomètre à l'autre endroit, les 10 maisons par kilomètre, on va les facturer plus parce qu'il y a des rues à déneiger. Il y a a des rues à entretenir, il y a des trottoirs, il y a des arbres, ça va vous coûter plus cher. Donc ça, c'est ça là, le cœur de l'écofiscalité, puis c'est un principe raisonnable. C'est pour ça que le président de la Chambre de commerce est tellement d'accord avec ça, puisque lui, il défend beaucoup des personnes qui sont au centre-ville.
Oui, mais est-ce que ta proposition se traduirait par une taxe additionnelle, une taxe qui s'ajouterait à la taxe foncière?
C'est parce que pense aux gens qui nous écoutent, qui sont propriétaires. T'sais. Tes revenus, puis t'es taxé là-dessus, t'es imposé là-dessus, varie, d'une année à l'autre peut-être. Ta maison, tu l'as achetée, tu l'as payée, elle prend de la valeur, puis là, tes revenus peut-être ont baissé avec les années, les rendements, tu comprends? T'es comme prisonnier de ta maison. Y a-tu moyen de prendre l'argent ailleurs que chez le propriétaire foncier?
Plusieurs possibilités. Premièrement, regarde, le gouvernement dit « je peux pas en donner plus ». Bon. Il y a quand même, gouvernement récolte beaucoup d'argent TVS, TPS, TVQ sur les immeubles neufs. Ben, ça, tu pourrais leur donner aux villes. Les immeubles sont construits dans les villes. Là où ils sont construits dans les villes, tu leur donnes aux villes en disant, bon, on reconnaît que c'est vous qui avez généré ce développement-là. L'autre affaire, c'est la taxe à la valeur ajoutée.
Est-ce que je peux commenter?
Oui, vas-y,
Ben, sur la TVQ, le gouvernement rembourse déjà aux villes et aux municipalités 50 % de TVQ payés sur leur territoire. Ça, c'est 614 millions qu'envoie le Québec à chaque année dans les villes et municipalités. Ils remboursent 50 %, mais s'ils remboursaient 100 % là, on arriverait à 1,2 milliards. Là, ça commence à être intéressant.
Oui, ça serait le fun. L'autre affaire, c'est la taxe à la valeur ajoutée. Ça, c'est la première source de revenus pour une ville comme Paris, par exemple, alors que c'est zéro pour Montréal. Taxe à valeur ajoutée, ça veut dire t'as acheté un immeuble, 500 000 $. Tu as eu une progression de la valeur de cet immeuble-là sur 25 ans. Tu le revends au bout de 25 ans, 825 000 $. Tu payes pas de taxe sur la valeur ajoutée parce que ça a augmenté à l'inflation. Puis tu as eu des réparations à faire. Mais tu as acheté un immeuble 500 000 $, tu le revends l'année d'après 1 million. Tu as fait 500 000 $ en un an. Ben ça, il y a une valeur ajoutée qui est liée à l'environnement. C'est pas toi qui as investi dans l'immeuble. Et là, on va aller chercher de l'argent dans tes poches là-dessus. Il y a tellement de richesses qui a été générée au Québec par l'immobilier dans les 15 dernières années pour lesquelles l'État n'est pas allé chercher une scène, que ce soit au provincial ou que ce soit au municipal.
Ouais, mais oubliez pas que politiquement imposer de nouvelles taxes aux citoyens, c'est pas ce que souhaitent les élus là. Ça crée énormément d'inconfort chez les élus de savoir que les options qui se présentent ou les seules options qui se présentent, c'est d'imposer des nouvelles taxes. Politiquement, je sais pas si la mairesse et son équipe vont vouloir aller sur ce terrain-là.
C'est sûr, jamais. Mais moi, j'irai. Moi, je pense qu'il faut y aller parce que il y a une affaire qu'il faut comprendre.
Toi, tu veux toujours y aller de toute façon.
Let's go, esti. Tu sais, on n'est pas là pour être élu pendant 10 ans, là. 4, ça va suffire. Mais regarde, toi, quand tu dis qu'il ne faut pas trop taxer l'utilisateur payeur. Ben, l'utilisateur
non,
payeur.
Non, je ne dis pas ça.
Mais il ne faut pas en prendre trop sur le cochon de payeur. T'sais.
Mais ça prend un équilibre, Luc, parce que la ville de Montréal, dans le fond, doit demeurer compétitive par rapport à ses concurrents.
D'accord, je comprends ce message-là, mais je vais amener un autre message. Le message, c'est que les gens ne savent pas le coût de ce qu'ils génèrent comme coût à la ville. Quand tu mets tes pieds dans un musée, sais-tu combien ça coûte à un gouvernement ou à la ville? 93 $ par personne. Par personne qui rentre.
Si tu rentres, qu'on les ferme.
Ben non, mais on va te demander, veux-tu garder les musées, les bibliothèques, tu veux les garder ouverts? Ben ça coûte ça. Les terrains synthétiques, maintenant, on joue au football. Avant, on jouait au football, soccer, sur les terrains en gazon. Maintenant, on joue sur les terrains synthétiques. Ça coûte à peu près 40 $ par heure d'utilisation par personne.
Mais tu vois, avec la fin de ce volet de la commission, dans un peu plus d'une heure, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, va annoncer les modalités pour l'envoi des chèques aux Québécois. Oui. C'est là que
Duplessis donne à sa province.
Exactement. C'est ce matin dans une heure. Distribution des chèques.
On va l'avoir, notre argent.
Bon, tu vois, fait que Valérie...
Il l'avait volé, il nous le redonne.
C'est ça. Valérie peut attendre là, avec tous ses projets là, parce que...
Duplessis donne à sa province.
Voilà, il ne dépense pas, il consacre. C'est ça qui est important de retenir. Merci à vous deux. À demain.
C'est 23.